Bienvenue dans ce pilote de Variante pour deux, le podcast pour deux joueurs et pas plus, car ici on parle de jeux, mais à deux. L'objectif de ce podcast, c'est de vous faire des recommandations de jeux à deux, car celles que l'on trouve en ligne sont un peu toujours les mêmes. Si des créateurs font l'effort de tester et adapter leurs jeux pour deux joueurs, ça vaut la peine qu'on en parle. On abordera donc autant des jeux strictement à deux que des jeux à plus que ça qui proposent une variante pour deux ou qui s'y prêtent bien. Dans tous les cas, ce sont des jeux qui nous ont avant tout beaucoup plu. Et si je dis « on », c'est parce que je ne fais pas ça tout seul, je suis accompagné du bon Dr Hannibal. Bonjour.
Bonjour Tétol.
Histoire de nous situer un petit peu en tant que joueur, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ludique ?
Mon parcours ludique, c'est pas mal de jeux de base, très classiques, des jeux pour enfants, commencé assez tôt avec mes sœurs, et mes cousins et mes amis, etc. Et derrière, je suis rentré dans le gros du jeu de société moderne durant mes études supérieures, où il y a des jeux post-Catan, on va dire, qui sont sortis, dans lesquels je me suis bien plongé.
Et donc ton type de jeu, c'est plus les gros jeux, les petits jeux, les jeux d'ambiance, un peu tout ça?
Je joue un peu à tout, sauf les jeux de cartes traditionnels. En termes de jeu, il y a du gros jeu, sauf qu'avec le temps et les projets, c'est de moins en moins facile d'avoir le loisir de pouvoir se poser 8 heures pour pouvoir jouer. Il s'avère que ma moitié, elle, est beaucoup plus fan des petits jeux pas prise de tête. Du coup, j'ai tendance à être un peu plus là-dessus ces dernières années, mais de temps en temps, ressortir un Agricola ou un jeu où il faut réfléchir... Et se poser une heure ou deux, c'est plutôt pas mal aussi. Et toi donc, quel est ton parcours ludique pour nos nouveaux auditeurs ?
Merci de me poser cette question. Moi j'ai toujours aimé les jeux de société. Je pense que le début de mon parcours ludique, je vais le marquer à mon année de prépa où j'ai commencé à jouer à Magic de manière assez intensive. Et en particulier les deux premières années d'études supérieures où j'ai fait tous les tournois qui passaient. C'était vraiment mon truc qui me faisait sortir de l'environnement un peu fermé de l'école où on voyait toujours les mêmes personnes. Et après ça, bah, comme toi, on a découvert, incroyable, on se connaît, on a découvert ensemble le jeu de société moderne à la ludothèque d'Albi. Et par la suite, j'ai fréquenté d'autres ludothèques et été à plusieurs salons au fil des années. Et si je devais définir mon type de jeu, ce serait plutôt des jeux avec des belles mécaniques. Ouais. J'aime bien les systèmes, j'aime bien les gros jeux. Une partie de 6 heures, moi je suis partant.
Moi aussi, mais pas tous les jours.
Oui,
ma dernière partie de 6 heures remonte à il y a un certain temps quand même.
Je pense que moi aussi. Dans ce pilote, nous allons parler de Dominion. On va d'abord présenter le jeu et ses règles, et vous dire pourquoi on aime beaucoup ce jeu. Ensuite, on parlera un petit peu des extensions, et on aura fait le tour du sujet. Donc pour commencer, est-ce que tu veux nous présenter l'environnement dans lequel est sorti le jeu ?
Bien volontiers. Alors, Dominion, c'est un jeu de Donald X. Vaccarino qui date de 2008, qui a été Spiel des Jahres en 2009 et qui a eu moult extensions de 2009 à 2020, dont on reparlera un peu après. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour le jeu de base, qui peut se jouer jusqu'à 6 avec les extensions. Et la boîte précise à partir de 8 ans pour des parties de 45 minutes environ, mais... On peut peut-être plus viser sur un 10-12 ans pour des parties de entre 20 et 45 minutes.
Surtout à 2, 45 minutes, ça va être un temps à 3 ou 4. Ouais. À 2, 20 minutes, c'est plié.
C'est exactement ça. Comptons 10 minutes par joueur, basiquement. 10-15 minutes par joueur, grand max. C'est un jeu de deck building. Pour ceux qui ne visualisent pas le deck building, l'idée c'est qu'on part d'un ensemble de cartes, qu'on appelle un deck, et qu'on va augmenter tout le long de la partie, en essayant de favoriser les interactions et les synergies entre les différentes cartes.
La différence qu'on fait entre une pioche et un deck, c'est que généralement une pioche, c'est plusieurs joueurs qui vont taper dedans et deck, on va être tout seul à prendre des cartes dedans.
Ah, c'est une pioche individuelle pour un joueur spécifique qui n'a pas forcément du coup les mêmes cartes que les autres joueurs, en fonction du déroulé de la partie. C'est un jeu qui est édité par Rio Grande Game en VO, qui a été édité par Philosophia en France dans un premier temps, puis par Istari. Et en termes de taille de jeu, de taille physique de jeu, on reste sur des boîtes standards qui valent une quarantaine d'euros. Au niveau du paysage ludique, le jeu sort donc en 2008-2009. Je ne saurais pas trop situer son arrivée en France, mais je crois que c'est plutôt 2009 quand il a été Spiel des Jahres et qu'il a vraiment explosé.
Il y a des chances, oui.
C'est dans ces années-là qu'on a vraiment le boom du renouveau du jeu de société en Europe. C'est-à-dire qu'avant, quand on parlait de jeux de société, avant les années 2000, on était plutôt dans des Monopoly, La Bonne Paye, des jeux assez classiques. Puis il y a eu...
Catan surtout.
Bah, pour moi, Catan, c'est le pivot à partir duquel on va vraiment commencer à parler de nouveaux jeux modernes. Catan, c'est un peu plus élaboré qu'un Monopoly. Pour moi, en fait, les jeux qu'il y avait avant les années 2000, ce qu'on entend, parce que le grand public entendait beaucoup par jeu de société, c'est on jette un dé, on bouge son pion, on fait une action, et voilà. Et on réfléchit pas forcément. C'est des jeux assez déterministes, en fait. Alors que Catan, c'est un peu un pivot qui va commencer à introduire des nouvelles mécaniques, de la stratégie accessible, mais du coup des parties qui se renouvellent beaucoup et qui ne sont pas liées uniquement au facteur chance.
Les vrais jouent à diplomatie pendant 4 heures ou 6 heures. Et là, on est passé sur des formats de parties qui sont beaucoup plus courts, mais pas moins intéressants.
Voilà, et beaucoup plus accessibles, surtout, en fait. Là, du coup, le jeu devient vraiment jeu de société, dans la mesure où les règles s'expliquent rapidement, la partie se met en place rapidement et on peut jouer tout de suite. Donc dans ces eaux-là, donc 2008-2009, dans ces alentours, il y a des jeux qui ont beaucoup marqué, notamment Agricola, qui a fait partie de nos découvertes à tous les deux des jeux de société modernes.
Quel jeu !
Ouais, qui est un jeu de 2007, qui se joue très très bien et dont on aura l'occasion de reparler parce que le jeu de base se joue à deux et ils ont sorti une version exprès pour deux joueurs, donc ce sera l'occasion de faire deux autres épisodes. D'autres jeux du paysage qu'on voit encore pas mal encore aujourd'hui, Dixit, qui date de 2008, qui est un jeu sur des associations de cartes et d'idées, donc c'est des cartes aussi, on n'est pas sur un deck building comme Dominion, mais avec des très belles illustrations. Pandemic, qui est un jeu coopératif, et Small World également.
Tu parlais de la récompense qu'il a reçue du Spiel des Jahres, qui est un peu la récompense reine, en tout cas à l'époque, du jeu de société. Donc jeu de l'année en allemand, hein, puisqu'il est décerné chaque année à Essen.
Il est le plus grand salon de jeux de société du monde.
Juste après la remise de ce prix, il y a eu une petite polémique parce que le jeu était considéré comme un peu trop expert, trop compliqué, je fais des guillemets avec mes doigts, par rapport aux gagnants précédents.
Surtout s'il est écrit à partir de 8 ans sur la boîte.
Et c'est suite à ça que le Spiel des Jahres sera divisé en trois prix différents, le prix enfant, le prix qui n'a pas de suffixe et le prix expert. Dans Dominion, on joue un souverain qui va chercher à développer son royaume en investissant dans des villages, des sorcières, des bûcherons, etc. Bon, on va pas se mentir, c'est pas le thème le plus important, on est plus sur un jeu à mécanique qu'un jeu thématique. Tout ça c'est bien beau, mais comment ça se joue ? Alors, c'est très simple. À son tour, on a 5 cartes en main, on va jouer une carte action et on va acheter une carte. Et ensuite, on défausse tout et on repioche 5 cartes. Hyper simple. On ne peut pas faire plus simple. La subtilité, évidemment, c'est que la carte action qu'on va jouer va avoir des effets variés, va peut-être nous donner plus d'actions, va nous faire piocher plus de cartes, va nous permettre d'acheter plus de trucs, va nous donner plus de sous pour acheter plus de choses. Et ça va nous permettre de faire des combos, c'est-à-dire d'associer plusieurs cartes entre elles pour avoir des effets plus puissants que les effets individuels.
Voilà, l'idée, du coup, effectivement, est de favoriser ces combos, ce petit moteur qu'on peut mettre en place pour... récupérer le plus de cartes victoires qui font les points à la fin de la partie et d'être le joueur gagnant de ce duel.
Sur la table, on a trois types de cartes. On a les cartes trésors qui nous permettent d'acheter d'autres cartes. Donc il va falloir acheter de l'argent, ce qui est un concept. Il va y avoir les cartes de victoire qui font des points et généralement rien d'autre. Et les cartes royaumes qui permettent de faire des actions extrêmement diverses et qui vont changer à chaque partie. Ça permet d'avoir des parties extrêmement différentes les unes des autres.
Tout en ayant des règles extrêmement simples, puisque comme on l'a dit, à chaque fois, on va avoir une action, un achat, on se défausse et on pioche. Donc toujours la même mécanique, mais la présence de cartes dans notre deck va renouveler les possibilités qu'on va pouvoir avoir à chaque tour.
Tout celle du jeu, c'est d'arriver à gérer notre deck. D'ajouter des actions qui nous intéressent autant pour pouvoir les utiliser à des tours suivants, d'ajouter de l'argent pour pouvoir acheter des choses plus intéressantes au tour suivant, et de ne pas l'encombrer de choses inutiles comme les points de victoire qui certes font gagner mais encombrent plus qu'autre chose sur le cours de la partie.
Chaque joueur commence avec le même deck de départ qu'avec 10 cartes, sachant qu'on doit en jouer 5 par tour. Donc il y a une égalité totale sur le début de la partie entre les différents joueurs. Au centre du plateau, il y a la réserve, à savoir les cartes victoire, les cartes trésor, mais surtout les 10 cartes actions différentes qui sont empilées par tas de 10 au centre. Cette réserve est commune à tous les joueurs. Et ce sont ces cartes actions qu'on va pouvoir acheter et mettre dans notre deck et qui vont permettre de renouveler la partie. Parce que sur les 10 actions disponibles, elles sont tirées au hasard parmi toutes les cartes qui sont dans la boîte de jeu et toutes les extensions qu'on a décidé de sortir pour jouer.
Toujours un plaisir de sortir les extensions. Les 10 boîtes d'extensions.
Beaucoup de boîtes.
Donc on va jouer nos tours comme ça jusqu'à ce qu'il y ait 3 piles vides ou que la pile des cartes province, qui est la carte victoire qui fait le plus de points, soit vide. À ce moment-là, on arrête la partie immédiatement, on compte les points qu'on a dans nos decks, et celui qui a le plus de points dans son deck a gagné la partie. Et après, on en refait une, parce que ça va vite et que c'est chouette.
C'est ça. Finalement, dans le jeu, le plus long, c'est de se retrouver à mélanger son deck. Quand on a vidé son deck et qu'il faut mélanger sa défausse.
Beaucoup de manipulation de cartes dans ce jeu.
C'est le jeu qui m'a appris à mélanger les cartes, pour être honnête. Les 10 cartes actions tirées au hasard, qui sont mises au centre dans la réserve pour la partie, sont piochées parmi les 25 cartes royaumes différentes que contient la boîte de base. Donc, ce qui veut dire qu'avec la boîte de base, 25 cartes royaumes, on en pioche 10, ça nous donne à peu près 3 millions de combinaisons possibles, qui ne seront pas forcément toutes gages d'une bonne partie.
Il n'y a pas de mauvaise partie, il n'y a que des parties bizarres.
Ouais, voilà, c'est pas des mauvaises parties, au pire, c'est des parties intéressantes.
C'était bizarre.
En plus de la boîte de base, le jeu dispose d'une dizaine d'extensions qui introduisent entre une douzaine et une trentaine de nouvelles cartes royaumes différentes chacune. Donc tout ça, ça peut nous faire monter le nombre de combinaisons possibles à quelque chose aux alentours de 27 millions de milliards pour la VF. Donc ça fait quand même pas mal de possibilités pour jouer. Ça reste moins que le nombre de combinaisons possibles d'un Rubik's Cube, néanmoins. Faut le savoir.
Important. Dans la boîte, on a aussi des cartes à dos un peu différents qui nous permettent de facilement tirer au hasard les cartes avec lesquelles on va jouer.
Dans ce tirage au hasard, on peut être assez libre. Nous, par exemple, notre expérience qui fonctionne bien, c'est que on va tirer 10 cartes, on vérifie qu'on soit assez équilibré en termes de coût pour les cartes, pour qu'on puisse acheter des cartes à faible coût et qu'on ne se retrouve pas à avoir que des choses qui sont inabordables. Et derrière, on met aussi en système un veto entre les différents joueurs, à savoir que s'il y a une carte qu'un des deux joueurs refuse absolument, on peut l'éliminer. Et on en retire une autre pour se retrouver à nos 10 cartes et faire notre setup de partie.
Et donc pendant la partie, à quoi tu penses? C'est quoi ton fil de pensée?
Alors, moi quand je pense, je réfléchis pas trop aux statistiques. Je calcule pas grand chose d'ailleurs, je vais beaucoup jouer au feeling, comme sur à peu près tous les jeux, mais surtout sur le deck building. Quand on commence, on va avoir dans notre deck 10 cartes avec 7 cartes de cuivre qui vont nous permettre, en gros, vu qu'on en pioche 5, d'avoir une ouverture où on va soit avoir 5 cartes au tour 1 et 2 cartes au tour 2, soit 3 cuivres au tour 1 et 4 cuivres au tour 2. Donc, en fonction de cette ouverture, je vais essayer de voir, par rapport aux cartes royaumes qui sont au centre, qu'est-ce qui pourrait être le plus efficace pour aller vite chercher de l'argent pour pouvoir ensuite acheter des provinces plus rapidement que mon adversaire. Pour moi, c'est un jeu qui se joue beaucoup dans l'immédiat, dans la mesure où, vu qu'on a un côté un peu aléatoire avec la pioche des cartes dans notre deck, on ne peut pas se préparer, on ne peut pas anticiper 20 coups à l'avance ce qui va se passer, parce que de toute façon, il y a un côté aléatoire, je vais mélanger ma défausse pour reconstituer mon deck et repiocher des cartes. Donc, en fait, je raisonne vraiment qu'à court terme, par rapport à ce que j'ai, par rapport à ce que je peux éventuellement piocher aussi, sans forcément compter dessus, et essayer de mettre en place un moteur le plus rapidement possible. Donc, un moteur, c'est la petite mécanique qui me permet derrière d'avoir un rythme, de mettre en place une petite stratégie pour justement générer des points de victoire ou générer de l'or.
Ouais, je suis un peu pareil. Au début, je me dis, je vais acheter ça, ça et ça. Ça va faire un truc qui va tourner à peu près. Et j'essaye de garder à peu près ce cap-là pendant la partie en faisant avec ce que j'ai en main. Quoi. Et c'est ça qui est agréable, en fait. C'est que c'est jamais trop prise de tête. On a une stratégie globale, mais on n'est jamais en train de faire des calculs à 2, 3 tours, 4 tours en avance, essayer d'anticiper ce que va faire l'adversaire. On est juste en train de gérer l'aléatoire et de faire avec ce qu'on a pour aller dans la direction qu'on espérait aller au début.
C'est exactement ça. Vu qu'on n'est pas énormément dans l'anticipation, enfin, voire qu'on n'est même pas du tout dans l'anticipation, on a une charge mentale pendant le jeu qui est vraiment pas très élevée. Donc on réagit vraiment en court terme, peu d'éléments d'un coup. Et du coup, c'est pas assommant comme dynamique de jeu et on peut vraiment profiter de la partie en fait. J'aime bien les jeux où il faut réfléchir, même si je suis moins bon parce que comme je disais, je joue au feeling. Mais là, Dominion, le gros avantage, c'est que c'est léger. On peut avoir des intuitions ou essayer des stratégies ou se dire là, en 4 tours, statistiquement, je devrais peut-être avoir la chance d'en être à tel niveau. Mais on peut aussi aborder le jeu extrêmement légèrement, à savoir, je vais jouer un peu au feeling, je pense qu'il faut que là, j'achète cette carte-là au centre parce qu'elle m'intéresse, et puis ça va me permettre d'acheter ça, et puis voilà. Ça reste léger. Ça dynamise aussi la partie, vu qu'on n'est pas à calculer 20 ans en avance. Ce qu'on doit faire, les tours s'enchaînent relativement vite, Donc on est de l'ordre de quelques secondes pour des joueurs avertis par manche avant de repiocher des cartes.
Ouais, c'est un des rares jeux que j'ai pas de problème à enchaîner les parties. Généralement, quand je finis une partie d'un jeu, j'ai pas envie d'en refaire une tout de suite. J'ai envie de laisser reposer un peu et de pas de reprendre tout ce processus de remonter une stratégie, de la réappliquer. Vu que les décisions ne concernent que le tour présent, c'est pas épuisant. C'est pas un souci de relancer une partie parce que finalement, je vais toujours gérer le tour en cours et c'est tout. Une chose qui fait que j'aime particulièrement ce jeu à deux, c'est que les tours sont courts et que du coup, on a l'impression d'être toujours en train de jouer. On est soit en train de mélanger notre deck, soit en train de jouer, presque.
C'est ça. C'est, en fait, dans le jeu, on a peu d'interactions directes avec les adversaires en fonction de ce qu'on joue. On a certaines cartes attaques qui vont les forcer à défausser ou à piocher une carte malédiction ou autre, mais ça, c'est des actions qu'ils font en autonomie dans leur coin. C'est-à-dire que je joue une attaque et je n'ai plus de décision à prendre, en fait. Donc chaque joueur joue globalement dans son coin. Quand on joue à 3 ou plus, bah on est obligé d'attendre que tous les joueurs aient fini avant de revenir à nous. Quand on joue à 2, on peut jouer un tour en quelques secondes. L'adversaire va jouer en quelques secondes, c'est juste le temps qu'il nous faut pour piocher nos nouvelles cartes et puis préparer le coup qui vient. Donc il y a vraiment un dynamisme à 2 qui rend les parties, je trouve, à mon sens, et je pense que tu seras du même avis, beaucoup plus intéressant qu'à 3 ou plus.
Oui, et surtout, à 2, on arrive à suivre ce que fait l'autre. À peu près, on sait à peu près combien il a acheté de points de victoire et on sait à peu près qui est en train de gagner. À peu près, toujours. Avec un gros doigt mouillé.
Voilà. On a fait des parties à plus, notamment quand on a découvert le jeu. Et il y a de temps en temps un peu la surprise à la fin où on pense qu'on est très en avance. Et puis bah, quand on compte les points, en fait, c'est le joueur numéro 3 qui a acheté tous les duchés sans qu'on s'en rende compte, discrètement dans la partie. Et on n'a pas vu le tas diminuer parce qu'on était un peu focalisé sur la mise en place de notre moteur, la construction de notre deck. Et du coup, en fait, c'est beaucoup moins évident à suivre. À deux joueurs, c'est plus dans l'affrontement, en fait. C'est pas un affrontement direct avec le joueur où on va le pénaliser, c'est plus une sorte de course contre la montre avant la fin de la partie.
Je suis complètement d'accord.
Après, j'ai souvenir aussi, donc comme on le disait tout à l'heure, le jeu il se joue de 2 à 4. Avec une des extensions qui s'appelle Intrigue, on peut faire passer ce nombre de joueurs jusqu'à 6.
Très mauvaise idée.
J'ai souvenir d'une partie, alors je sais plus si on était 5 ou 6, c'était long. Et c'était aussi une époque où on était encore dans les premières phases d'apprentissage du jeu. Parce que Dominion, en fait, c'est un jeu qui a plus de profondeur qu'on peut penser dans un premier temps. Et nous, là, c'est parti à 6. C'était vraiment au tout début, quand on n'a pas encore maîtrisé le concept de bah, acheter des cartes au centre, c'est bien, mais faut pas que j'en achète trop ou faut que j'en jette pour être vraiment efficace.
Les parties se finissaient toujours avec 3 piles vides et tout le monde autour de la table avait un deck énorme qui mettait 6-8 tours à faire un tour.
6-8 tours pour vider le deck et 2-3 minutes pour le mélanger efficacement aussi.
Quel plaisir.
On commence à faire beaucoup de cartes.
Et on avait déjà cette intuition qu'il y avait quelque chose parce qu'on avait un ami commun qui avait fait une partie où il avait acheté quasiment que des sous. Il avait fait un résultat très honorable. Ce qui était un peu perturbant parce que est-ce que la bonne solution du coup c'est d'acheter que de l'argent ?
Mais acheter que de l'argent, c'est pas intuitif. Les cartes qui vont être intéressantes, c'est les cartes au centre qui vont permettre de jouer. Alors qu'avec acheter de l'argent, bah, on a l'impression que le jeu est vide. Il n'y a pas d'effet.
C'est fade.
Ça paraît fade.
C'est un peu, bon bah c'est à moi. J'ai 5, j'achète de l'argent. À toi.
Ça paraît fade et on a l'impression qu'il n'y a pas de surprise, mais c'est parce que en fait, le sel de Dominion, c'est pas l'effet des cartes, c'est la manière dont le deck va bouger, va tourner, et la rapidité avec laquelle on va pouvoir brasser les cartes pour les repiocher à nouveau. Et le contrôle du deck est assez primordial. Et il y a notamment une carte qui est dans le jeu de base qui permet de faire ça et qui est assez incroyable, c'est la chapelle.
Et au début, la chapelle, on ne comprenait pas. On la voyait, on ne la prenait pas.
Voilà. La chapelle, pour situer aux autres joueurs, c'est une carte royaume, du coup, qui ne vaut pas très cher, mais elle va permettre d'écarter des cartes de son jeu. C'est-à-dire qu'on va prendre les cartes et on va les enlever du jeu. On les remet dans la boîte. Donc elles ne sont plus utilisables. Et ça paraît un peu absurde de se dire, bon, bah ouais, j'ai des cartes. Là, par exemple, j'ai des cartes de cuivre, c'est de la monnaie. Pour acheter d'autres cartes, bah je m'en sépare, ça me sert à rien. Pourquoi je jette littéralement l'argent par les fenêtres de la chapelle ? C'est assez contre-intuitif. Et je me souviens qu'un jour, t'es venu en disant « C'est bon, j'ai compris, la chapelle, c'est la carte la plus forte du jeu. » Et moi, j'étais pas prêt à l'entendre, en fait. Et t'as fait « On va faire une partie, je vais te montrer. » On a fait la partie, ça a été extrêmement rapide par rapport à ce à quoi on jouait d'habitude. Et tu m'as détruit et j'ai pas compris comment. Et derrière, on a réanalysé ça, et effectivement, l'idée de la chapelle, c'est que bah, tu vas pouvoir épurer ton deck en enlevant des cartes qui te parasitent. Donc tu vas par exemple pouvoir jeter des cartes de cuivre, qui sont de la monnaie, mais qui ne comptent que pour 1 lorsque tu achètes, Et du coup, bah, tu vas te retrouver à avoir juste les rares cartes argent ou or que tu as achetées qui, du coup, te ramèneront beaucoup plus d'argent en beaucoup moins de cartes. Donc, tu vas avoir un deck épuré et beaucoup plus efficace pour jouer.
Voilà. À partir du moment où on a compris ça, on se rend compte qu'il y a un troisième niveau au jeu. Donc, il y a le premier niveau où on achète beaucoup de cartes, on fait des gros decks et on est content. Le deuxième niveau où on achète que de l'argent et on fait des decks qui sont certes ennuyeux mais qui gagnent. Et le troisième niveau où on achète quelques cartes au royaume et aussi de l'argent et on arrive à faire encore plus rapide. Et c'est là que c'est vraiment intéressant.
C'est exactement ça. Et pour y avoir rejoué hier, c'est vrai que quand on fait une partie, c'est rare finalement qu'on achète plus de 4 types de cartes différents.
Oui.
Il y a certains cas où on se retrouve à avoir vraiment de la diversité dans notre jeu parce qu'on a certaines cartes ou une stratégie qui impose de travailler sur la diversité. Moi, personnellement, c'est rare que j'ai plus que 5 types de cartes différents.
Formidable partie hier où j'avais 20 cartes différentes dans mon deck, c'était génial. Gagné.
Oui.
De beaucoup.
T'avais gagné de très très loin. T'avais juste la moitié de mes points en plus.
À peu près, ouais. Jusqu'ici, on a beaucoup évoqué la boîte de base, mais Dominion, c'est un jeu qui a beaucoup d'extensions. Donc ce que je te propose, c'est de passer en revue ces extensions et de dire pour chaque, est-ce qu'on recommande ou pas d'investir dedans. Donc la boîte de base, je pense qu'on est d'accord, on recommande. Quasiment indispensable si on veut se mettre à Dominion de passer par là. Si je dis quasiment, c'est parce que il existe la deuxième boîte,
savoir Intrigue,
contient les cartes de base qui permettent de mettre en place une partie. C'est-à-dire les cartes cuivre, argent et or qui servent à acheter d'autres cartes, les points de victoire, les cartes malédiction, enfin tout ce qu'il faut pour mettre en place une partie. Les boîtes suivantes ne contiennent pas ces cartes-là, donc on a besoin pour jouer soit d'avoir la boîte de base, soit d'avoir l'intrigue.
Du coup, Intrigue est un stand-alone qui sert soit d'extension si on a la boîte de base, soit de jeu de base, et dans ce cas-là, on peut considérer la boîte de base comme une extension. On vous conseillera plutôt de partir sur quand même Dominion simple, la boîte classique, qui a des cartes plus variées et qui est assez pratique pour découvrir le jeu. Peut-être plus équilibré en première approche que la boîte Intrigue.
Mais parce que la boîte Intrigue, elle contient des cartes qui sont un peu plus compliquées que la boîte de base, et pas moins intéressantes, mais il manque ce côté très simple qui permet une première approche un peu en douceur.
Ça. En fait, Intrigue, les cartes sont plus efficaces si on les mélange avec d'autres extensions. C'est le cas aussi de la boîte de base, mais la boîte de base se suffit à elle-même au niveau du jeu, alors qu'Intrigue est un peu plus délicate, notamment pour des nouveaux joueurs.
Donc est-ce qu'on recommande Intrigue ?
Oui, mais pas en priorité.
Et pas en première boîte ?
Pas en première boîte, pas forcément.
En tant qu'extension, ça permet de renouveler ses cartes quand toutes nos cartes cuivre, ils ont les bords blancs à force de jouer avec.
Voilà. Mais est-ce que c'est l'extension qu'on recommanderait en premier ? Pas forcément non plus, parce que des extensions, comme on l'a dit précédemment, il y en a eu beaucoup. Chacune apportant ses petites nouveautés, par exemple Rivage, qui va nous apporter une nouvelle mécanique, à savoir des cartes orange qui vont pouvoir rester sur la durée, qu'on va poser à notre tour et qui auront un effet au début de notre tour prochain.
Ouais, avec un thème maritime désagréable, qui change un peu du thème très campagne de la boîte de base. On recommande le Rivage.
On recommande.
Bonne boîte.
Ouais.
Ensuite, il y a eu Alchimie, la très mal aimée Alchimie. Mmh. Alors, Alchimie ajoute une nouvelle monnaie, les cartes potions. Donc il faut acheter des cartes potions pour ensuite acheter des cartes royaumes qui ont une potion dans leur coup. Ça n'a pas trop plu au moment où c'est sorti.
Ouais, c'est pas forcément génial quand on le joue non plus. J'ai souvenir d'une partie hier, en préparant l'émission, où tu t'es retrouvé à acheter une potion et pas pouvoir acheter ce que tu voulais avant quasiment la fin de la partie.
Ouais, mais c'était ma faute parce qu'il y avait des attaques en face, j'aurais pu me douter que j'arriverais jamais à avoir ma potion en même temps que les sous, donc c'est un peu ma faute aussi.
Oui, mais moi, de mon côté, j'ai réussi à le faire. Donc, il y a aussi un petit facteur chance.
C'est la critique que j'avais vue pas mal en ligne, hein. c'est que ça ajoutait beaucoup de variance aux parties. Surtout si on joue avec beaucoup de cartes alchimie en même temps. En fait, c'est au premier qui va avoir une potion et assez de sous pour acheter une très bonne carte, et après, c'est gagné.
C'est ça. Parce que les cartes d'alchimie ont des effets qui sont vraiment très forts, mais du coup, elles sont pas évidentes à acheter. La boîte non plus est pas évidente à acheter pour une raison simple, c'est que bah, c'est un demi-format, il y a beaucoup moins de cartes dedans. Mais c'est quand même vendu relativement cher, donc on n'est pas à la moitié du prix non plus.
Non.
Je sais que ça avait fait un peu crisser les dents quand le jeu était sorti aussi.
Ouais, c'est une boîte qui est beaucoup trop grosse par rapport à ton contenu. Ceci dit, Alchimie, depuis que j'ai beaucoup plus de boîtes, je l'aime bien. J'aime bien mettre une carte Alchimie dans une partie. Je trouve ça intéressant la décision de est-ce que j'achète une potion et je tente, ou est-ce que je la laisse complètement de côté et je fais autre chose. J'aime bien cette tension-là. Donc Alchimie, je dirais, pas en première extension. C'est plus une extension pour les complétionnistes. Si vous avez déjà 3, 4, 5 boîtes, ça peut être envisagé. En tant que première extension, non, c'est non. C'est sûr que non.
C'est pour joueurs avertis. Alchimie, il faut avoir atteint le stade 3 de la compréhension du jeu.
Ouais, il y a de ça, ouais. L'extension suivante, c'est un peu l'extrême inverse. Prospérité, c'est l'extension que tout le monde aime. Tout le monde est d'accord, c'est une bonne extension.
C'est exactement ça. C'est la première extension, moi, personnellement, que j'ai achetée. Tu avais la boîte de base, du coup, j'ai acheté l'intrigue pour qu'on puisse compléter nos cartes. Et derrière, la première extension que j'ai achetée, c'était Prospérité, justement, qui apporte de l'argent, en fait. Il n'y a pas de nouvelles mécaniques introduites avec un nouveau système. Par contre, les cartes qui sont à l'intérieur vont favoriser les achats, vont favoriser les ressources. Et on va tout de suite, par exemple, avoir une carte de platine qui vaut 5 monnaies pour faire des achats de cartes plus chères. Donc, basiquement, Prospérité, tout est plus cher, mais tout est vachement plus intéressant aussi. Et il y a les colonies, qui sont des cartes de victoire qui valent 10 points, donc c'est mieux que les provinces.
C'est-à-dire qu'on ne cherche plus à avoir 8 sous à chaque tour, on cherche à avoir 11 sous à chaque tour, ce qui est plus difficile.
On arrive à avoir des tours des fois où on se retrouve à la fin, bon bah...
J'ai 15.
J'ai pas eu d'action, j'ai joué mes cartes, j'ai 15. Voilà. C'est plus des tours comme ça plutôt que de « Ah bah j'ai posé mes cartes, j'ai 7, oh zut
!» Donc Prospérité, on recommande chaudement.
Mm.
C'est peut-être la deuxième boîte à acheter après la boîte de base.
Mm. Je suis bien d'accord.
Ensuite, il y a une nouvelle petite extension, donc toujours demi-boîte, pas demi-prix, c'est Abondance. J'aime bien Abondance, parce que le thème d'Abondance, c'est la variété. On va avoir beaucoup de cartes qui récompensent le fait d'avoir des cartes très différentes dans notre deck. En plus de ça, c'est une extension qui introduit des cartes qui ne sont pas disponibles à l'achat, mais qu'on va pouvoir obtenir via les effets d'autres cartes. Ici, on a un tournoi qui, si on le remporte, nous fait gagner une récompense, qui est une carte unique, qui va s'ajouter à notre deck.
Que l'adversaire n'aura pas
et que personne n'a l'occasion d'acheter. Même si j'aime bien l'abondance, c'est vu que c'est une demi-extension et qu'elle est assez chère, c'est un peu compliqué de la recommander. Mais intéressante. Moi j'aime bien.
C'est pour renouveler les cartes et sortir un peu du côté j'ai 10 cartes dans mon deck et j'achète que de l'or pour acheter des provinces. Ouais, comme tu disais, c'est des cartes variées et si on se retrouve à en avoir beaucoup dans la réserve, des cartes de cette extension, on se retrouve à devoir tout de suite jouer des gros decks. C'est pas forcément ma préférée.
Ah. Les avis divergent. Mmh. Extension suivante, c'est l'arrière-pays. Alors, l'arrière-pays. Il faut expliquer quelque chose pour expliquer l'arrière-pays. C'est que l'auteur, donc, dont je ne répéterai pas le nom, pendant la phase de développement du jeu, il a inventé plein de cartes qu'il a ensuite redivisées en extensions. Toutes ces divisions-là, en fait, vont jusqu'à l'arrière-pays. Donc, avant la sortie de la boîte de base, il avait déjà défini qu'est-ce qui irait dans l'intrigue, qu'est-ce qui irait dans Rivage, qu'est-ce qui irait dans les chimies, etc. Et donc, l'arrière-pays, bah, c'est les cartes qui restent à la fin. C'est le reste. Donc, il n'y a pas vraiment de thème, il n'y a pas vraiment de mécanique en plus, c'est juste les cartes qui restent. C'est des cartes un peu compliquées.
C'est un peu de tout, c'est les cartes les plus abordables parce que ça peut être des règles un peu étranges. C'est des cartes souvent qui se jouent en deux temps. Il y a des cartes qui vont faire que quand on achète une carte, on va pouvoir en piocher une autre.
C'est pas une extension très excitante, en fait.
Ouais. En exagérant un peu, c'est presque les fonds de tiroir.
Je pense qu'on peut le résumer comme ça. Du coup, l'arrière-pays, bah, j'ai du mal à recommander, en vrai. C'est pas très excitant, quoi. C'est un peu la dernière boîte que t'achètes pour compléter la collection.
C'est ça, ouais. C'est pour les complétionnistes. C'est pas les cartes les plus folles.
Ensuite, il y a eu l'âge des ténèbres. L'Âge des Ténèbres, c'est une boîte que j'ai beaucoup aimée et que j'ai achetée après qu'on ait un peu mis le jeu de côté parce qu'elle renouvelle vraiment le jeu. Elle change les cartes qu'on a au début de la partie. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 3 cartes qui font un point, on va avoir 3 cartes uniques. Une qui donne 2 actions, une qui s'écarte quand on achète des points, et une qui fait piocher une carte quand on l'écarte. Et de ne plus avoir ces 3 points nuls là en début de partie, d'avoir des cartes qui ont un vrai effet à la place, je trouve que ça renouvelle vraiment les parties. Ça change la façon de jouer. On a de base une carte qui permet de faire des combos. C'est vraiment la bonne idée.
Sachant que ces cartes-là, tous les joueurs les ont. Tous les joueurs commenceront avec ces 3 cartes différentes à la place des 3 domaines de base. Le gros avantage, c'est qu'il y a par exemple la nécropole à l'intérieur qui permet d'avoir plus de 2 actions. Ça permet de redynamiser aussi des parties où il n'y a pas de cartes qui permettent d'avoir plusieurs actions dans la réserve.
Même si le thème de cette extension, c'est la pauvreté et la ruine, c'est une très très chouette extension. Je pense que c'est une de celles qu'on peut recommander sans réserve.
Ouais, sans réserve, ouais. Je la mettrai à peu près au niveau de Prospérité. C'est-à-dire que s'il faut commencer sur une autre extension, bah, Prospérité, c'est cool. L'Âge des Ténèbres, c'est cool aussi.
Ensuite, il y a eu Guild. Guild, on n'y a pas joué. C'est une autre demi-extension et on avait arrêté de jouer à Dominion à ce moment-là, donc j'ai pas acheté. Donc je sais pas. Ensuite, on a eu Aventure, qui est la dernière boîte qui est sortie en VF. Et qui s'est, je pense, pas très bien vendue parce qu'on en trouve encore en promo aujourd'hui, en mars 2022. C'est une boîte intéressante. J'ai un peu du mal à la cerner encore parce que forcément, vu que c'est la dernière que j'ai achetée, je l'ai moins pratiquée que les autres. Et c'est une boîte intéressante. Les cartes sont pas...
exceptionnelles, mais c'est une boîte où on va avoir pas mal de cartes durées. Donc, ils peuvent renouveler un peu la dynamique de la partie, vu qu'on va pouvoir enchaîner des choses d'un tour à l'autre. On va avoir des cartes avec une action de réserve qui permettent de mettre de côté des cartes pour pouvoir les jouer plus tard, un tour d'après ou plus tard dans la partie, ou faire en sorte que toutes ces cartes qu'on a mis de côté vont avoir un effet à part. Il y a deux autres mécaniques qui sont aussi introduites avec Aventure, à savoir des cartes qui vont pouvoir évoluer, un peu comme les Pokémon. C'est-à-dire que je vais pouvoir acheter un paysan qui va pouvoir devenir un soldat, qui va ensuite devenir un déserteur, puis un disciple, puis un maître. À chaque fois qu'on la joue, on va pouvoir la faire évoluer et changer ses actions, et à la fin, on a des choses qui peuvent être assez fortes. Mais il va me falloir 5 tours pour pouvoir la pousser jusqu'au bout.
Souvent, la partie est finie quand on arrive au dernier niveau, c'est un peu décevant.
On a aussi une deuxième mécanique qui est introduite avec Aventure, qui sont les événements, qui est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup joué, tous les deux. Au départ, qu'on trouvait pas génial, et en fait, finalement, si, ça passe pas mal. C'est pas game changer, mais ça peut apporter un peu de diversité.
Donc les événements sont des cartes, il va y en avoir une ou deux par partie qui vont être disponibles, et on va pouvoir acheter leur effet au lieu d'acheter une carte. Donc on ne rajoute rien à son deck, on a juste un effet tout de suite. Et le fait d'avoir cette option disponible, c'est intéressant. C'est difficile de dire autre chose que ce mot très générique, mais c'est intéressant, ça donne une option en plus.
C'est pas révolutionnaire, mais ça... peut redynamiser.
On en a eu une par exemple hier qui permettait d'écarter des cartes à n'importe quel moment et ça a donné une partie particulièrement n'importe quoi. C'était bien. Les extensions suivantes, on ne les connaît pas parce qu'elles ne sont pas sorties en VF et qu'on avait arrêté de jouer à Dominion au moment où elles sont sorties en VO. Du coup, on n'en parlera pas. Ceci dit, il y a eu quelques cartes bonus qui sont sorties en tant que
goodies.
Bonus sur des salons ou goodies, voilà. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est des cartes que je rangerai dans l'extension arrière-pays. C'est pas des cartes qui révolutionnent les parties, mais restent sympathiques. De toute façon, elles sont bien trop chères en physique pour envisager de les acheter. Je crois que t'avais regardé le prix en ligne.
Ouais, basiquement, on est sur l'équivalent en occasion de 100$ pour avoir les 12 paquets de cartes. Donc ça fait beaucoup.
C'est un petit peu excessif.
Ça fait à peu près 1$ la carte. Physique, pas le paquet de 10, 1$ la carte. Donc oui, ça devient un peu cher.
À comparer Magic, ça va. Ça va. Sauf que c'est pas Magic. Donc voilà pour les extensions. Ce que vous demandez peut-être maintenant, c'est où est-ce que je peux trouver ce jeu formidable qui me fait très envie, désormais. Vu qu'il commence à dater un petit peu, c'est un peu compliqué, je pense, de le trouver en boutique. À moins de tomber sur une boutique qui a encore des stocks, c'est peu probable. En ligne, par contre, on trouve la boîte de base en neuf. Et les extensions en VO pour la plupart. Pour tout ce qui est VF, tout est épuisé, j'ai l'impression. Donc il faudra peut-être passer par le marché de l'occasion pour trouver une boîte en VF en tout cas. Sinon, une autre option, c'est de passer par le jeu en ligne, qui est tout à fait décent, pour l'avoir testé il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 heures.
Alors, jeu en ligne qui est en anglais.
En early access, donc c'est vilain. Vraiment, c'est pas beau.
Voilà. Mais l'avantage, c'est qu'il est en free-to-play. À savoir que du coup, vous n'êtes pas obligé de payer pour y jouer, mais qu'en accès gratuit, vous aurez que le jeu de base et l'extension Aventure.
On ne sait pas trop pourquoi l'Aventure était débloquée, mais il était débloqué, hein, alors qu'il est en vente en même temps. Enfin, early access, quoi.
Et les autres extensions, je crois que c'est quelque chose du genre 6 ou 8 euros la boîte dans ces eaux-là, pour ajouter des cartes.
Ce qui varie d'une extension à l'autre, les demi-extensions ne sont pas moins chères, hein, c'est vraiment une tendance que dans Dominion. Donc il faut bien regarder ce qu'il y a dedans avant d'acheter une extension. Cette version propose aussi un mode solo, avec une IA qui déconne pas. Clairement, elle est pas là pour enfiler des perles, elle est là pour gagner, même en facile.
Même en facile. Du coup, si vous voulez tester le jeu, on vous conseille plutôt d'essayer de trouver une ludothèque ou un ami qui aurait le jeu pour vous le faire découvrir, plutôt que d'essayer d'être convaincu par le jeu vidéo.
Il y a un tutoriel et, qui a l'air ok et l'interface est relativement claire, mais je pense que si on n'a pas vraiment en tête ce qui se passe physiquement avec les cartes, de où elles passent, ça doit être un petit peu rude de commencer par là. Et vraiment commencer par des parties contre l'IA, très mauvaise idée. Moi j'ai fait 3 parties, j'ai perdu les 3. Facile.
J'ai réussi à en gagner une.
Je vais pas abandonner. Je vais pas me laisser faire.
On va y rejouer.
Eh bien, ce sera tout pour ce pilote. Merci de nous avoir écoutés. On espère que ce podcast vous a plu et qu'on aura su vous donner envie de vous installer autour d'une table pour une petite partie. Vous pouvez nous retrouver eh ben, nulle part, parce que pour l'instant, ceci n'est qu'un pilote. Et il y a de bonnes chances pour que d'autres épisodes arrivent un jour ou l'autre. En attendant, jouez bien et à la prochaine.
À la prochaine.